10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Bonjour Emmanuel Wargon et bienvenue dans ce grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos. Il y a 3 jours, le président de la République a déclaré au magazine Time ceci. D'une certaine façon, les gilets jaunes, dit-il, ont été très bien pour moi. Ça m'a rappelé qui je devais être. Une forme de contrition, également en même temps une forme d'aveu. Les gouvernements, en fait, n'agissent que sous la pression des crises. Vous avez coordonné cette grande tournée présidentielle devant les maires appelée Grand Débat, qui s'est conclue avec la décision d'accélérer la transition écologique, ce qui fait partie de votre domaine au sein du gouvernement. Et à ces titres, vous nous direz comment concrètement les Français vont-ils pouvoir intégrer les urgences climatiques dans leur vie quotidienne. Après le grand débat, on a quand même l'impression d'un grand réveil. En France, oui, il y a des territoires délaissés, des quartiers abandonnés et tant de bonnes idées empêchées. Désormais, on s'occupera de tout, on ira partout, dit-on au gouvernement. Cette rentrée devait être placée sous le signe de l'écologie, mais le chef de l'État prend sa majorité et ses ministres à contre-pied avec le sujet de l'immigration. Vous êtes issu du monde social, aux côtés de Martin Hirsch, vous avez forgé le RSA sous le mandat Sarkozy. Après un passage chez Danone, on vous retrouve au pays du en même temps. Vous êtes une de ces nouvelles figures de cette macronie de gouvernement qui découvre la politique. Avec Nicolas Barré et Damien Fleureau qui va ouvrir ce grand rendez-vous, on va voir de quelle manière.
Bonjour Emmanuel Wargon.
Bonjour.
On a vu hier une mobilisation des gilets jaunes qui perdait en puissance à Paris mais aussi en province. Cet acte 45 des gilets jaunes, c'était l'acte final pour vous ?
En tout cas, c'est sûr que ça n'est pas la grande rentrée des gilets jaunes. On en avait finalement assez peu et on a plus parlé du fait qu'ils gênaient d'autres manifestations que de leur mobilisation par
eux-mêmes. C'est un
échec. Vous voyez la fin du mouvement.
En tout cas, c'est un pari perdu. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est la fin du mouvement. Je pense qu'il faut qu'on prenne ce sujet au sérieux. Ce mouvement des gilets jaunes, c'est à la fois une inquiétude forte liée à notre modèle et une colère.
Mais il n'y aura pas de blocage de rond-point comme on a pu le voir il y a plusieurs mois.
Pour finir, je pense que l'inquiétude est toujours là. La colère, elle semble s'exprimer moins et c'est heureux.
Nicolas Barré.
Autre échec relatif, enfin vous nous direz ce que vous en pensez, mais il y a eu seulement 15 000 personnes pour marcher pour le climat hier à Paris. Ils étaient 100 000 à Berlin, 100 000 à Londres. Est-ce que ça veut dire que les Français sont moins sensibles au sujet que les autres ?
Non, je ne crois pas du tout. On avait des jeunes qui ont marché pour le climat vendredi, environ 10 000. 15 000 personnes à Paris hier, mais aussi inquiètes de l'agglomération des gilets jaunes. Et du coup, d'ailleurs, une manifestation qui a été perturbée par les Black Blocs. Moi, je suis beaucoup en France, en province, sur le terrain, et j'entends les préoccupations sur l'écologie. Je ne crois pas que ces chiffres veulent dire que les Français sont moins préoccupés par l'écologie que les autres. Je pense que tout le monde aujourd'hui est préoccupé par l'écologie.
Mais tout de même, le fait qu'ils soient moins nombreux que dans d'autres pays à manifester, est-ce que ça ne rend pas plus difficile l'adoption finalement de mesures fortes pour lutter contre le dérèglement climatique ? On pense à la taxe carbone par exemple, s'il y a aussi peu de monde qui manifeste pour ça. Est-ce que ça ne rend pas les choses plus compliquées ?
L'ambition du gouvernement, elle est forte. On y reviendra, je pense, sur l'écologie. On est conscient de l'ampleur de la tâche et de l'ampleur de la transformation à porter. Ces manifestations, ces marches, elles vont dans la bonne direction. Ce sont des gens qui nous disent « ne relâchez pas, faites toujours plus ». Que même s'il n'y a que 15 000 personnes, ça n'entame pas la détermination du gouvernement à agir.
On voit bien qu'à l'échelle déjà du monde, c'est quand même une petite mobilisation. Mais surtout, ce qui est intéressant et ce qu'on remarque à chaque fois, c'est que la tendance dans chaque défilé de ces jeunes pour le climat, c'est aussi de défiler contre le gouvernement, contre la politique du président Macron. Et donc, tout ce que vous allez nous expliquer, vous expliquez depuis la fin de l'acte 2, ça ne convainc pas. Ça ne convainc pas les jeunes générations.
Mais c'est quoi une politique écologique convaincante ? Parce qu'en fait, c'est ça la question. Pour moi, une politique écologique convaincante, c'est d'abord de partager un constat. Ça, je crois qu'on l'a tous très largement fait, tous les rapports qui existent des experts. C'est ensuite se donner la bonne ambition. Et enfin, c'est agir, c'est-à-dire traduire cette ambition dans les actes. L'ambition, nous l'avons sur le climat. Nous avons un objectif de neutralité carbone en 2050. Nous l'avons maintenant mis dans la loi. Donc cette loi est en fin d'adoption, elle sera bientôt votée, donc ce sera une contrainte législative. C'est ce qui nous permet de respecter l'accord de Paris. Et après, c'est sujet par sujet que cette ambition se décline. Sur les transports, comment on fait pour aller assez vite sur le bâtiment, les économies d'énergie.
Et tout ça,
Donc c'est à cette aune-là qu'il faut juger une politique écologique. Et je pense que notre ambition est forte et que nos actes sont à la mesure de notre ambition.
Vous n'avez pas marché hier pour le climat ?
Je n'ai pas marché hier parce que ces manifestations qui sont effectivement des manifestations d'interpellation du gouvernement, je considère que je suis plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire ceux qui sont interpellés et qui doivent continuer à renforcer, porter l'action.
Dans les premières manifestations, il y a eu des membres du gouvernement qui ont été envoyés pour pouvoir montrer.
Ça dépend un peu de l'ambiance et de la tonalité des manifestations, bien sûr.
Alors, justement, encore un mot, effectivement, sur ces manifestations. Toujours des casseurs, on l'a vu, vous l'avez regretté, on l'a tous vu hier, et sont... Les casseurs ont infiltré donc, cette manifestation pour le climat. On a vu effectivement que le dispositif de sécurité policier a pu contenir, mais quand même, on n'arrive pas à les empêcher d'arriver. Quand ils décident de venir quelque part, ils sont là. Il n'y a pas un problème là ?
Les casseurs sont arrivés, ils étaient en fait au début de cortège, puis vers la fin du cortège. La réponse des forces de l'ordre, que je salue d'ailleurs, a été immédiate. Elle a finalement permis de contenir ces casseurs. Donc je trouve que globalement, on peut être plutôt satisfait et plutôt soulagé de la manière dont ça s'est passé. Mais pour moi, encore une fois, au-delà des casseurs, l'important, c'est le signal que nous donnent les Français sur la mobilisation écologique. Et même si on avait finalement relativement peu de monde, et puis à l'échelle mondiale, pour le coup, il y a eu beaucoup de gens qui se sont mobilisés pour le climat, je crois que ça nous dit simplement qu'il faut qu'on agisse. Et ça, on le prend très au sérieux.
Damien Fleurot.
Emmanuel Wargon, vous avez passé des semaines et des semaines sur le terrain à l'occasion du grand débat national au début de l'année. Vous avez entendu les craintes et les attentes des Français. Et pourtant, cette rentrée, on a l'impression que vous êtes pris de court sur certains dossiers, notamment cette question de l'hôpital, de la santé, des déserts médicaux. Vous n'avez rien entendu ou rien appris de ces échanges avec les Français ?
Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Moi, en fait, j'ai été plongée dans ce grand bain des échanges avec les Français à travers beaucoup de contacts avec des délégations de Gilets jaunes au début, puis l'animation du grand débat avec Sébastien Lecornu. Et on a beaucoup entendu demandes sur l'aménagement du territoire, sur comment vivre en dehors des grandes villes, sur l'accès aux services publics. Et c'est tout l'objet de l'acte 2 du quinquennat que de répondre à tout ça.
Et pourquoi, en cette rentrée, la crise des urgences qui dure, malgré les annonces d'Agnès Buzyn, 750 millions d'euros, ça ne suffit pas ?
Parce qu'une bonne partie des questions qui nous sont posées sont des questions d'organisation, sont des questions de moyen long terme auxquelles on peut répondre en partie
donc
par des mesures rapides
vous demandez
et
du
en
temps
partie
et de
par
patience.
De la réorganisation. C'est vrai des urgences, c'est à la fois une question de moyens, mais c'est aussi une question d'organisation à l'intérieur des urgences et du système hospitalier. C'est vrai de la question des services publics dans le monde rural, et le Premier ministre a présenté un plan ruralité vendredi qui continue à partir d'annonces déjà faites qui vont entrer rapidement en vigueur. Je pense par exemple aux maisons de services publics, les maisons France Service, on en aura 300 supplémentaires dès l'année prochaine. Mais après, c'est tout un système à repenser. Donc nous avons entendu le message, nous voulons aussi travailler différemment. Moi je passe beaucoup de temps en province, j'étais encore 3 jours cette semaine d'ailleurs, dans la région Centre-Val-de-Loire. J'y vais en passant du temps là-bas, en écoutant les gens, dans des permanences, dans des débats, pour arriver à répondre aux questions qui sont vraiment posées, parce que la transition écologique, comme l'aménagement du territoire, comme le soutien au monde rural, ça sera concret, par des actes, et ça sera avec les habitants.
Alors justement, puisque vous passez beaucoup de temps à échanger avec
Nicolas
les Français,
Barré,
est-ce que vous voyez d'autres sujets de crispation monter là, en cette rentrée ? On pense peut-être à EDF, où il y a des mouvements contre la réforme qui se dessine, on peut penser aux professions libérales qui se mobilisent contre la réforme des retraites, etc. Est-ce que vous sentez un climat à ce niveau-là ?
Sur les retraites, en fait, on s'est donné du temps, vous le savez. Mmh. On repart dans une démarche d'ailleurs qui est très proche de la démarche précédente avec un grand débat. L'idée étant de sortir d'une discussion entre spécialistes, tous ceux qui ont contribué au rapport du haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, et d'aller à une discussion plus simple, plus clair, avec tous les Français sur pourquoi veut-on changer notre régime de retraite, quel objectif on se donne et comment on fait pour y arriver. Et donc, ce calendrier est détendu, on prendra le temps nécessaire. Bien sûr, ça génère des inquiétudes, mais je crois qu'il faut aussi qu'on dise que notre système de retraite tel qu'il est, il ne résistera pas aux 20 ou aux 30 prochaines années. Donc,
vous
pour
que
donner
ça va
une retraite
compliqué à expliquer
aux jeunes. C'est très technique, les retraites. Et donc, il faut sortir de ces sujets très techniques pour réexpliquer pourquoi on fait tout ça. Et moi, c'est ce qui me frappe aussi beaucoup. Vous savez, je fais des débats sur les énergies renouvelables. Mmh. Et donc, j'ai en face de moi des gens qui sont violemment pour les éoliennes, violemment contre les éoliennes. Mais avant de commencer à parler d'éoliennes, moi, je prends toujours 5-10 minutes pour expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on veut changer de mode de production d'électricité en France ? À la fois parce qu'on veut baisser les émissions de gaz à effet de serre, donc atteindre des résultats sur le climat, et aussi parce qu'on veut réduire la part du nucléaire en France. Et donc, c'est parce qu'on a ces deux ambitions que, du coup, il faut développer des énergies renouvelables.
Donc, vous nous expliquez la méthode.
Ce que je vous explique, c'est que, avant de rentrer dans des discussions précises, techniques, sur comment va fonctionner une réforme, c'est important d'expliquer, alors, de partager, confronter les points de vue sur le pourquoi.
Je vous renvoie exactement cette phrase. Avant de rentrer dans les précisions techniques sur comment on va faire les réformes, ce qui nous intéresse à ce stade-là, c'est encore de comprendre la méthode, de la regarder de plus près, parce que vous avez posé tous les principes, et puis après, il y a les actes et la réalité. Par exemple, cette convention citoyenne qui devait permettre à des Français donc, de participer au grand débat, ça ne marche pas. Combien de Français ça a été repoussé ? Combien de Français ont été sélectionnés ?
Non, mais c'est compliqué à mettre en place. Je peux pas vous laisser dire ça.
Alors,
le tirage au sort est en cours. Il a commencé fin août. Ça a pris un peu de temps.
Voilà.
C'est vrai que ça a pris un peu de temps. Ça a pris un peu de temps. Au début, parce que l'idée, c'était de le faire avec le Conseil économique, social et environnemental, de nommer tous les gens qui allaient s'en occuper. On a maintenant deux garants. Laurence Toubiana, qui est celle qui a été à l'origine de l'accord de Paris, et puis Thierry Pech, et une petite équipe autour dans laquelle on trouve Cyril Dion. Le tirage au sort a commencé plutôt fin août, parce que les tirages au sort au cœur du mois d'août, ça ne marche pas très bien.
Donc ça va
Ce tirage au sort marche très bien. Les gens qui sont contactés disent plus souvent que d'habitude « oui, ça m'intéresse ». Cette convention se réunira pour la première fois début octobre. Ils ont prévu 6 week-ends de travail qui nous amèneront courant du premier trimestre l'année prochaine. Et cette convention, elle sert à rentrer dans le dur et dans les décisions difficiles sur l'écologie. Parce
Alors
que l'écologie,
justement.
Juste si je peux finir,
il y a une partie
qui est d'une certaine manière facile, qui est la partie incitative, amélioration de système. Et celle-là, il faut la faire de toute façon, parce qu'on a des tas de sujets sur lesquels on peut avancer rapidement, simplement comme ça. Et puis après, il y a la question de l'interdiction, des interdictions éventuelles et du financement. Et ça, ce sont des questions démocratiques, d'où la convention.
On va prendre le temps d'en parler, mais c'est vrai que les Français aujourd'hui, ils n'attendent plus ni les paroles ni les actes, ils veulent des résultats et on va en parler. A tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Et surtout Emmanuel Wargon, secrétaire d'État à la transition écologique que l'on reçoit ce matin dans ce grand rendez-vous. Les feuilles de route sont nombreuses sur ce sujet, neutralité carbone 2050, fermeture des centrales pour 2035, puis plan biodiversité encore vendredi sur l'environnement, le développement durable. Ça n'arrête pas, toute la volonté est là. Maintenant, comment ça se traduit concrètement dans la vie des Français ? Par où commencer ? Comment on va effectivement ressentir donc, la transition écologique dans notre vie quotidienne ?
Alors moi, je travaille sur un sujet particulier qui me tient vraiment à cœur, qui est la rénovation des bâtiments, la rénovation des logements. Parce que la meilleure énergie, c'est encore l'énergie qu'on ne consomme pas, c'est la sobriété énergétique. Quand on rénove, quand on isole, quand on améliore le chauffage d'un logement, d'une maison, d'une copropriété, d'un immeuble,
là, comment on qualifie,
c'est bon pour la planète.
C'est ça ?
C'est les passoires thermiques, mais globalement, même si des logements sont à un niveau intermédiaire, on peut toujours faire des progrès. Et donc, quand on isole mieux, c'est bon pour la planète parce qu'on émet moins de CO2 et donc on lutte contre le réchauffement climatique. C'est bon pour le porte-monnaie parce que forcément, on fait des économies sur les factures. C'est bon pour la qualité de vie parce que surtout quand ce sont des logements, vraiment des passoires, pour le coup, on y vit mal avec des problèmes de santé. Et c'est bon pour l'emploi parce que ça se fait avec des artisans locaux.
Et je dirais, c'est bon pour le business parce que tout le monde va vouloir faire ça, non ?
Exactement. C'est bon pour l'emploi. Ça se fait avec des entreprises locales, des artisans. Donc, c'est vraiment une de mes priorités de la rentrée. Et je vous avoue que quand je vois comment ça fonctionne, moi, je suis assez largement scandalisée parce qu'il faut à peu près tout changer. Je vous donne un exemple. J'étais donc à Tours et je tenais une permanence. Et un monsieur est venu m'expliquer...
Pourquoi
je vous explique. Un monsieur est venu m'expliquer qu'il recevait 10 coups de fil par jour de gens qui voulaient le convaincre de changer sa chaudière pour 1 euro. Et ça, c'est pas possible. C'est du harcèlement. Donc en fait, on a un système dans lequel on a des aides, on a de l'argent, des aides de l'État, des aides des collectivités.
Je peux dire au fuel.
Tout à fait. Donc, c'est ce que je vous dis. Je vous dis qu'on a de l'argent.
Les entreprises,
on a des systèmes qui permettent de faire des travaux, mais il y a plein d'abus. Il y a plein de démarchages abusifs.
Il y a des arnaques.
Comme il y a des abus et des arnaques, et ben les gens n'ont plus confiance. Et du coup, les vraies aides qui permettent vraiment de faire des progrès, elles sont cachées par ces abus, par ces arnaques. Alors, sur ce sujet-là, moi, je vous l'annonce, avec ma collègue secrétaire d'État à l'industrie, Agnès Pannier, qui s'occupe de la répression des fraudes, et puis bien sûr avec Julien de Normandie, hein, parce que c'est vraiment une équipe ministérielle qui travaille là-dessus, on va lancer un plan de lutte contre les arnaques, de lutte contre les fraudes. On va aller chercher ces plateformes qui passent ces coups de fil. On va aller chercher les artisans qui travaillent mal. On va faire plus de contrôle sur les artisans et on va aussi aider les Français à savoir comment se repérer dans tout ça. Je vous défie de me dire à qui vous devez vous adresser aujourd'hui quand vous cherchez à rénover votre logement. On ne sait pas, il y a plein de gens qui s'en occupent, mais chacun a un petit bout de la solution. Donc j'ai lancé un tour de France dans lequel je vais voir les régions, toutes les collectivités territoriales. Oui, parce que en fait, ces aides, cet accompagnement, une partie est nationale, et on les simplifie d'ailleurs, mais une partie est locale. C'est votre ville qui met en place des aides complémentaires aux aides de l'État. C'est à votre mairie que vous allez quand vous voulez savoir ce qui se passe.
Mais ça fonctionne ou pas, la prime à la conversion, par exemple, pour les chaudières?
La prime à la conversion,
ça fonctionne depuis son lancement?
L'aide à la conversion pour les chaudières, ça fonctionne bien. On va en faire à peu près 150 000 cette année, des chaudières qui vont être très aidées. On va faire à peu près 200 000 isolations, mais on pourrait en faire plus et on pourrait les faire dans de meilleures conditions si les systèmes étaient plus simples, si les gens savaient à qui s'adresser et s'ils arrêtaient d'être harcelés au téléphone par des escrocs. Et donc, sur ce sujet-là, on peut faire mieux. L'année prochaine, on simplifie les aides côté État. Aujourd'hui, on a une aide d'une agence qui s'appelle l'ANA, qui est une prime. Et puis, il y a le crédit d'impôt qui arrive un an et demi après la fin des travaux en moyenne, parce que vous faites votre travaux et après, c'est la déclaration fiscale de l'année d'après. On simplifie tout ça. Plateforme unique pour avoir cette aide. Il suffira de déposer un devis, d'avoir un accord. Et ensuite, dès que les travaux sont faits, l'aide est versée. Et je le dis parce qu'on a parfois été attaqué là-dessus, donc je préfère le dire tout de suite, on maintient les moyens. On maintient globalement les moyens et donc il n'y aura pas de baisse des crédits.
Est-ce qu'elle va être d'une ampleur similaire à celle des crédits d'impôt? Est-ce que les hauts revenus vont moins finalement en bénéficier?
On maintient globalement l'effort de l'État et des entreprises. Il faut juste que vous me laissiez finir, mais on maintient globalement l'effort de l'État et des entreprises, puisqu'on fait payer les entreprises dans cette histoire. On fait payer les entreprises d'énergie qui donnent des aides et des primes pour les travaux. Après, ces aides, elles seront plus justes, plus simples, et elles seront mieux ciblées sur les gestes qui font vraiment faire des économies d'énergie, ce qui veut dire plus pour les ménages modestes et moins pour les ménages aisés. Parce que quand vous êtes parmi les 10 ou 20% les plus aisés en France, vous n'avez pas forcément
pourtant
besoin qu'on vous aide pour tous les
pourtant
gestes.
C'est les propriétaires qui peuvent aussi impulser les travaux dans leurs biens.
Oui, mais il y a des propriétaires de tout niveau de revenus. Il y a des propriétaires avec des revenus élevés, il y a des propriétaires avec des revenus intermédiaires ou modestes.
On
et c'est cela
alors
qu'on veut aider plus et plus vite.
On continue sur cette problématique avec Nicolas Barré.
Alors, ça ne vous a pas échappé, cette semaine, le Conseil des prélèvements obligatoires, qui est indépendant, qui est rattaché à la Cour des comptes, a publié un rapport disant que la France ne tiendrait pas ses objectifs sur le climat sans une hausse de la taxe carbone. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Je lui réponds qu'on a créé la Convention citoyenne aussi pour pouvoir poser ces questions directement dans un débat organisé avec les Français. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. À un moment, dans l'écologie, il faut rentrer dans des questions difficiles. Qu'est-ce qu'on accepte d'interdire? Donc, quelles sont les restrictions qu'on se donne collectivement? Et si on veut investir plus, comment ça se finance et comment on donne un signal sur les comportements positifs ou négatifs? La taxe carbone, on a échoué à l'expliquer et à convaincre dans la période précédente. Et c'est la raison pour laquelle nous avons arrêté. Nous avons arrêté son augmentation en 2019 et en 2020. Il n'y a pas d'augmentation de la taxe carbone dans le budget 2020.
D'accord.
Si on veut reprendre, il faut commencer par un débat citoyen. Les citoyens, les 150 personnes tirées au sort qui vont commencer à travailler début octobre, elles se prononceront sur cette question. En tout cas, elles se pencheront sur cette question. Et puis, on verra bien ce que ces 150 personnes qui ne sont pas des spécialistes nous disent.
Mais cette instance a recensé toute une série, 19 avantages fiscaux qui sont défavorables à l'environnement, mais qui bénéficient à certaines professions, le secteur aérien, les taxis par exemple. D'ailleurs, c'est contraire, entre parenthèses, à une réglementation européenne. Est-ce que là-dessus, vous allez revenir sur ces avantages ou est-ce que vous considérez que ces professions en ont toujours besoin ?
Non seulement on va revenir, mais on a commencé, puisque pour la première fois cette année, on augmente la fiscalité sur le gazole non routier de 2 centimes par litre. Et ça a finalement fait l'objet d'un accord récent avec les professionnels. Et puis on a créé une éco-contribution sur les billets d'avion en attendant que ce sujet soit repris au niveau européen. Donc on a commencé. Après, ça se fait forcément doucement, parce que là aussi, il faut accompagner des professions dans lesquelles c'était dans leur modèle économique, et progressivement, il va falloir que ce modèle change.
Emmanuel Vargon, vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez passé 3 jours dans le centre de la France. Vous avez peut-être entendu rencontrer des agriculteurs qui disent on en a ras-le-bol de cet agribashing, notamment parce que voilà, on serait opposé à la transition écologique. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin ? On vous entend, on va vous aider ?
Alors moi, je voudrais leur dire tout mon soutien. Et je voudrais leur dire à quel point je suis choquée de ce qu'ils vivent.
Et pour autant, j'ai rencontré un
agriculteur, et ça n'est qu'un exemple parmi d'autres, qui m'expliquait qu'un soir, alors qu'il travaillait dans son champ, il avait vu arriver une voiture, que quelqu'un était sorti de cette voiture avec une carabine, était monté dans son tracteur et l'avait mis en joue. C'est ça que vivent les agriculteurs aujourd'hui. Donc je voudrais leur dire mon soutien. L'agriculture française est une belle agriculture. C'est une agriculture qui nous nourrit tous les jours. Tous les Français demandent plus de circuits courts, moins d'importations agricoles. Ce n'est pas en tapant sur l'agriculture qu'on va faire ça. Donc je voudrais vraiment leur dire qu'ils sont importants, et je voudrais dire aux Français de se calmer sur l'agri-bashing et d'arrêter de faire une assimilation vraiment négative sur les agriculteurs pollueurs ou empoisonneurs.
Alors,
ça
attendez,
n'a aucun sens.
Quelques secondes avant la prochaine.
Au début de cette année, votre majorité pourtant a refusé la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes de produits phytosanitaires. Donc en clair, les agriculteurs qui avaient développé des maladies à la suite d'utilisation de certains produits. Pourquoi est-ce que
pour moi,
vous refusez la création de ce fonds
alors
que vous avez un discours différent ?
C'est d'arriver à réduire tous ensemble notre usage de produits phytosanitaires et de pesticides. Mmh. On a beaucoup d'interrogations sur ces produits. On a une agence qui les évalue, l'ANSES. Donc, on travaille à partir de ces évaluations scientifiques. Mais on sait aussi que l'avenir de l'agriculture, c'est une agriculture avec moins de pesticides. Simplement, là encore, c'est une transition, ça prend du temps. Il faut trouver des alternatives. J'en ai vu des alternatives, du désherbage mécanique, par exemple, qui permet d'utiliser moins d'herbicides ou moins de pesticides. Elles existent. La technologie va nous aider. Moi, j'étais dans un lycée agricole avec des jeunes qui ont envie d'innover pour l'agriculture, pour une agriculture plus responsable, qui protège mieux les sols, qui protège
Emmanuel
mieux
Barbon.
La biodiversité. Ça prend du temps. En attendant, arrêtons l'hystérie collective.
On va continuer justement à en parler, les urgences, avec donc le sommet de New York. À tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Et on retrouve Emmanuel Vargon, secrétaire d'État donc à la transition écologique. Tout de suite, une question, Nicolas Barré.
Oui, demain se tient à New York, aux Nations Unies, un sommet exceptionnel sur le climat. Il y a une vérité qui dérange un peu, mais qu'on ne dit pas tellement, c'est que si demain la France n'émettait plus un seul gramme de CO2, fondamentalement, ça ne changerait pas grand-chose pour la planète, parce qu'on sait très bien que les grands enjeux sont ailleurs. Ils sont en Chine, ils sont en Inde, où le charbon, l'usage du charbon est massif et augmente. Ils sont aux États-Unis. Alors comment est-ce qu'on peut espérer inverser le cours des choses si ces pays-là ne changent rien ?
Alors, d'abord, vous savez, moi, je voudrais penser à Pierre Rabhi et à l'effet colibri. C'est-à-dire, si tout le monde dit que c'est à l'autre de changer et que ce qu'on fait est dérisoire,
oui, nous,
personne ne changera jamais. Après, c'est vrai que les émissions de la France, c'est à peu près 1% du total mondial. Et c'est la raison pour laquelle on fait 2 choses. La première, c'est que le président est à la pointe de la diplomatie climatique parce qu'il fait beaucoup d'efforts depuis son élection pour faire vivre l'accord de Paris, amener les grands signataires de cet accord à prendre vraiment des mesures
et on a aussi vu les limites, notamment
on sait que
discuter,
un échec, l'accord
et peut-être
de Paris,
aussi à discuter au plan européen de ce qu'on fait. L'un des objectifs de notre diplomatie aujourd'hui, c'est d'amener les pays de l'Union européenne à prendre le même engagement de neutralité carbone en 2050. Donc on a besoin d'une diplomatie climatique très forte. Après, il y a besoin d'exemplarité. C'est vrai à l'intérieur du pays et c'est vrai au plan international. Nous ne sommes pas crédibles si nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire. Donc nous devons montrer que nous le faisons, que c'est possible de le faire, que c'est possible d'avancer. Et à partir de là, on peut aussi interpeller les autres. Vous savez, pour la première fois l'année dernière, les gaz à effet de serre, les émissions ont baissé en France de 4%. Alors, on est en retard sur une trajectoire de moyen-long terme parce qu'on a pris du retard depuis le début des années 2000, mais au moins, ça a recommencé à baisser. Donc, c'est plus facile d'aller interpeller les autres dirigeants quand nous-mêmes, nous montrons que c'est pas « faites ce que je dis, pas ce que je fais ».
Nicolas Barré.
Pour ce sommet pour le climat, le secrétaire général des Nations Unies dit aux pays et aux leaders qui vont venir, il faut que chacun d'entre vous arrive non pas avec des discours, mais avec des mesures concrètes. Le président Macron viendra avec quoi ?
Alors, le président Macron, comme vous le savez, il travaille aussi sur les sujets forêt amazonienne.
Il part aujourd'hui à New York, d'ailleurs, avec une délégation
guyanaise. Avec une délégation guyanaise, oui. Et donc ça fait partie des sujets sur lesquels il arrivera avec une initiative
brésilien.
Concrète. Mais après, c'est toujours la même question, c'est les résultats qu'on arrive à obtenir en France ou en Europe, parce qu'une partie du sujet est communautaire. Je prends le sujet des transports. Il y a une mesure très forte qui va arriver, qui va rentrer en vigueur dans peu de temps, en 2022. C'est une décision communautaire de baisse du niveau moyen, enfin maximum, des émissions de gaz à effet de serre, enfin de CO2 par les voitures. Je suis désolée, c'est technique, mais aujourd'hui, en moyenne, toutes les voitures neuves qui sont mises sur le marché, elles émettent 120 grammes de CO2 par kilomètre en Europe, 112 en France. En 2022, c'est 95 la norme. Là, c'est une norme, donc c'est une interdiction. C'est ce qui force les constructeurs à changer leur modèle. C'est pas juste pour le plaisir qu'on voit arriver plein de nouvelles voitures, des électriques, des hybrides, etc. C'est parce qu'on a pris une décision qui dit désormais, on n'accepte plus que les nouvelles voitures mises sur le marché polluent trop. Alors, on baisse les seuils. C'est ce genre de mesures qu'on peut mettre en place en Europe, qu'on pourrait essayer de mettre en place au plan mondial.
Justement, Emmanuel Vargon, on continue un peu à faire le colibri. On sait qu'il y a toutes les... tous les rapports sur la température qui va augmenter. Il y a un problème avec la sécheresse, il y a un problème avec l'eau. Les cours d'eau sont sans arrêt mobilisés. Qu'est-ce que l'on peut faire ? Qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour essayer de pallier le phénomène ?
Alors c'est le deuxième sujet sur lequel je travaille avec la rénovation des bâtiments. Allez. En gros, sur l'eau, si on s'y met suffisamment sérieusement maintenant, on peut éviter en France des crises majeures. On a pour l'instant plutôt une bonne ressource en eau. Mais c'est plus comme avant, c'est-à-dire que l'eau n'est plus un truc simple, évident. Eh bien, tout le monde s'y met, on évite de gaspiller. Tout le monde s'y met, ça veut dire quoi ? On s'est donné un objectif de prélever 10% de moins d'eau dans la nature d'ici à 2025. C'est pas très loin, 2025. Pour ça, ça veut dire qu'il faut que les entreprises d'eau changent leur modèle. Pour l'instant, c'est vrai qu'on paye les entreprises d'eau, les grandes entreprises, au volume. Et donc, à chaque fois qu'elles vendent plus de mètres cubes, elles gagnent plus d'argent. Ça veut dire qu'il faut qu'on change les contrats et ça veut dire qu'il faut qu'elles s'engagent à faire des économies d'eau. Je réunis tous les acteurs de l'eau mardi. Moi, j'interpellerai les entreprises en leur demandant de changer leur modèle.
Et avec une tarification différenciée ?
Oui, on pourrait imaginer. Et ça, ça concerne les entreprises, mais ça concerne tout le monde. Vous savez, on consomme, je crois, 147 litres d'eau par an. Donc, c'est beaucoup. 147, c'est bizarre. Je vais vous retrouver le bon chiffre. Mais en tout cas, les citoyens... Quand on consomme de l'eau, aujourd'hui, la tarification, elle est stable, voire même dans certains cas pour les industriels, elle est dégressive.
Donc les gros consommateurs payent.
C'est-à-dire que plus on consomme, moins on paye. Vous savez, quand on achète plus de volume, on paye moins. C'est stupide sur l'eau. Plus on consomme, plus on doit payer. J'étais à Rennes, parce que je n'étais pas en centre-Val de Loire, j'étais à Rennes la dernière fois. Eau de Rennes, ils ont mis en place un tarif progressif. Les premiers mètres cubes pour une famille, on les paye vraiment très peu cher. Ensuite, les mètres cubes moyens, normaux, ceux-là, on les paye au tarif normal. Et puis les derniers mètres cubes, les mètres cubes du bain à la place de la douche, les mètres cubes du robinet qu'on laisse ouvert, eh bien ceux-là, on les paye plus cher.
Bien sûr, parce que vous commencez à expliquer, pour que l'on comprenne, les cours d'eau, comment on fait pour arrêter de puiser ? On recycle les eaux usées ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Deux choses. D'abord, on se met d'accord avec les agriculteurs pour... voir quels sont leurs besoins, comment est-ce qu'on peut les faire évoluer, comment est-ce qu'ils vont à de l'irrigation qui consomme moins d'eau, comment est-ce qu'ils changent les pratiques et parfois même les cultures. Et en faisant ça, on accepte de faire des retenues d'eau. Et puis, on réutilise très peu les eaux usées en France. C'est-à-dire que pour nettoyer les bâtiments, pour laver les voitures, pour le nettoyage industriel, pour arroser les pelouses, on utilise de l'eau potable. On a plein de pays dans le monde qui réutilisent l'eau usée. À chaque fois qu'on réutilise l'eau usée, on prélève moins dans les nappes et dans les cours d'eau. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels on s'est donné un objectif. On veut multiplier cet usage par 3 dans les 5 années qui viennent. Et j'espère qu'on fera plus que ça.
Fin du mois, on continue avec justement Nicolas Barré.
Il y a eu un coup de chaud sur le marché du pétrole après les attaques en Arabie Saoudite. Le patron de, avec un effet immédiat sur les prix à la pompe, le patron de Total, Patrick Pouyanné, a évoqué l'idée ancienne de taxes flottantes. Quelle est la position de votre ministère là-dessus ?
Bah, le coup de chaud s'est un peu calmé de toute façon. Donc on a eu peur il y a une dizaine de jours. Finalement, le prix du baril se stabilise à peu près. On n'a ni problème d'approvisionnement, ni problème de hausse de prix. Mais en fait, c'est une question qui va se reposer tous les 6 mois.
Ça
notre position, c'est
flottante.
Moins de consommation. C'est pas le prix, c'est pas le prix du litre qu'il faut maîtriser, c'est la facture. Et la facture, c'est le prix du litre multiplié par le volume de consommation. À chaque fois qu'on consomme moins, on maîtrise la facture.
Ça, on comprend, mais
comment on consomme moins ?
Taxe flottante ou pas, alors ?
Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Après, ça dépendra de l'évolution, on va s'adapter. Mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour.
Damien Fleurot.
Cette semaine, le président de la République ira à Rodez pour rencontrer 500 Français, échanger avec eux sur l'avenir du système des retraites. À nouveau, un grand débat. On va nous faire le coup à chaque fois maintenant sur tous les thèmes et les chantiers de réforme de votre gouvernement. C'est la réforme qui vous fait peur, cette réforme des retraites. Vous dites, on va prendre le temps. C'est parce que vous craignez un mouvement social fort. Il y a des manifestations qui sont d'ores et déjà annoncées cette semaine. Une grève illimitée à la RATP peut-être début décembre.
La marque du président, la marque de ce gouvernement, c'est d'affronter les problèmes difficiles. Donc oui, c'est un problème difficile, les retraites. Et certains présidents de la République disaient qu'il y avait de quoi faire tomber 2 ou 3 gouvernements successifs à chaque fois qu'on
Donc,
touche aux retraites.
Donc il va rencontrer 500 par 500 les Français.
Il faut traiter les problèmes difficiles, c'est ce que les Français nous demandent. Il faut arriver à avoir des politiques de long terme et pas seulement des réformes qui règlent un problème pour 2 ans, pour 3 ans, et puis on y revient et puis on repasse la patate chaude au gouvernement d'après. Donc cette réforme, il faut prendre le temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'en expliquer la logique, le pourquoi, et puis de poser les principes qui sont des principes d'universalité, de justice et de maintien de nos retraites par répartition. Oui, ça fait bouger beaucoup de choses. Donc oui, ça fait bouger à peu près toutes les situations individuelles. Donc forcément, on passe d'un système connu à un système qui n'est pas encore connu et qui n'est d'ailleurs pas totalement délimité. Ça fait forcément un peu peur. Mais ce sera notre capacité à expliquer et à construire progressivement qui sera le gage du succès de cette réforme. Il faut la faire, cette réforme. On la doit aux jeunes qui n'auront pas de retraite dans le système actuel si on ne le change pas.
Aussi,
et d'ailleurs, on le change tous les 5 ans.
C'est important ce que vous avez dit. Ça fait peur, là. On a l'impression même que au sein du gouvernement, les ministres ont peur. Chacun est mis sous la pression de sa propre corporation pour protéger le régime particulier, autonome, spécial, je ne sais.
Non, je crois que personne n'a peur. Je crois vraiment que la marque de ce gouvernement,
c'est d'accepter... Du côté du ministère de l'Intérieur, on dit on défendra le régime des policiers. À la Défense, on dit on défendra. Donc, est-ce qu'au fond, vous allez avoir la force politique d'affronter
Mais je crois que c'est ce qui fait notre identité politique, d'être capable d'aller affronter des sujets sur lesquels personne n'était vraiment allé au fond dans la période précédente. Je vous donne un exemple
RATP,
sur un autre sujet,
parce
secteurs. Que c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé et que je connais
Allez-y.
Bien. La lutte contre la pauvreté et l'insertion par l'emploi. Ce gouvernement a très très fortement réduit les contrats aidés. Et ça, c'est un sujet sur lequel tout le monde disait, les contrats aidés, on en a besoin. Les contrats aidés, ce sont des emplois subventionnés, en général dans les mairies, qui étaient des contrats courts, hein, c'était 6 mois, 9 mois, renouvelables ou pas. Et on avait des statistiques du ministère de l'Emploi qui disaient, les gens qui passent par ces contrats, ils sont moins employables après qu'avant. Ce gouvernement a eu le courage d'arrêter et de mettre plus d'argent dans d'autres formes d'insertion, la formation professionnelle et les entreprises d'insertion, ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique. Tout le monde disait c'est pas possible, on peut pas arrêter les contrats aidés. Ben finalement on l'a fait et c'est plutôt mieux pour les personnes en situation de pauvreté. Les retraites, tout le monde nous dit c'est impossible, mais ça n'est pas impossible, on doit le faire.
Donc
c'est une question
de
responsabilité.
Il y a aussi assumer un affrontement et un rapport de force.
Non, je crois pas avoir parlé d'affrontement, je crois pas avoir parlé de rapport de force. On peut réformer sans affrontement et sans rapport de force. C'est une question de temps, c'est une question d'explication, c'est une question de débat, c'est une question de construction progressive. Cette réforme, c'est une réforme très importante. Elle prendra le temps qu'elle prendra. Il n'y a pas de calendrier, prendra le temps nécessaire.
On a compris, mais qu'est-ce que vous dites aux perdants ? Qu'est-ce que vous dites, par exemple, aux avocats qui disent, nous, on n'a rien demandé à personne, on a un système qui fonctionne et on va perdre dans cette réforme ?
Souvent, électeurs...
Mais en fait, il faudrait déjà se demander ce qu'on appelle des perdants dans cette réforme, parce que personne ne peut dire aujourd'hui que les gens qui cotisent et qui sont dans un système particulier aujourd'hui auraient la retraite telle que prévue par ce système dans 20 ans ou dans 30 ans. On fait comme si on avait deux branches de l'alternative, on ne change rien et tous les systèmes actuels perdurent ou on change. Les systèmes actuels, ils ne sont pas en capacité de perdurer, ils ne sont pas financés. Donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on bâtit en positif un nouveau système.
Là, pour ces professions, quand même, s'ils le sont.
Alors peut-être que pour certaines professions, il y a moins de tension. Et après, la question, c'est aussi une question de solidarité. C'est est-ce qu'on fait société tous ensemble ? Est-ce qu'on est solidaires tous ensemble ? Est-ce que c'est juste qu'un euro cotisé produise pas le même niveau de retraite après ? Je ne crois pas. C'est aussi une question de justice. Moi, je suis très attachée à la justice.
Justement, Emmanuel Wargon, ce qui fait société, on va continuer à en parler avec les crispations éventuelles. À tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et on retrouve Emmanuel Wargon, secrétaire d'État à l'écologie, qui elle aussi a retrouvé une donnée qu'elle voulait nous transmettre. Allez-y.
Oui, je m'étais emmêlée dans un chiffre tout à l'heure. On consomme 147 litres d'eau par jour, par personne en France. Donc c'est beaucoup, il y a de la marge pour réduire.
Dont acte. Damien Fleurot.
Ce matin, dans le journal du dimanche, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, dénonce la faiblesse de la politique présidentielle sur le sujet de l'immigration. C'est le dossier brûlant de cette rentrée. Il y a un débat à l'Assemblée nationale le 30 septembre prochain. Elle dit qu'il faut un choc d'autorité. On va l'avoir finalement, j'ai l'impression. Le président de la République le souhaite.
Non mais ça c'est une posture, le choc d'autorité.
C'est
le président de la République.
Le président de la République aussi, qu'il faut se saisir de ce sujet.
C'est pas la même chose de dire...
Il
faut
comment,
un débat, il faut qu'on affronte ce sujet, un peu comme les retraites finalement, c'est un sujet important, il est là depuis longtemps, il n'y a pas les sujets politiquement corrects dont on peut parler et les autres, ce sujet, il est là, il faut le traiter, et c'est une autre chose de prendre une posture en disant « moi je représente l'autorité », c'est plus compliqué que ça.
Elle fait de la politique en clair, Valérie Pécresse
Elle fait de la politique politicienne, et c'est ce qu'on essaye de ne pas faire sur ce sujet.
Et pour autant, ce sujet, vous l'avez abordé il y a tout juste un an, en votant un texte, une loi asile, immigration, c'était Gérard Collomb qui était alors ministre de l'Intérieur, et on se ressaisit de ce dossier en cette rentrée. C'est
pas
de la politique
aussi.
Ce sujet, il dépasse la question de l'asile, en fait, il pose la question... de l'accueil des personnes qui viennent demander asile. Il pose aussi la question de l'immigration régulière. Et puis, c'est finalement une question de société qui ressort aussi, par exemple, avec l'aide médicale d'État.
Alors,
donc, c'est un sujet un peu global.
Alors, cet audit que lance Matignon, il vous inquiète sur l'AME, justement ?
Moi, l'AME, j'y suis très favorable. Je pense que l'AME, c'est l'honneur de la France de soigner des gens qui sont malades, qu'on ne va pas laisser à la porte de l'hôpital. Donc, bien sûr qu'il faut soigner les gens. À la fois pour eux, c'est une question de dignité, et pour tout le monde d'ailleurs, parce que c'est aussi une question de santé publique. Après, s'il y a des abus, c'est-à-dire s'ils sont mis en évidence par un rapport de haut fonctionnaire, s'il y en a, on avisera. Mais je pense qu'il faut arrêter les fantasmes sur l'aide médicale d'État. C'est 0,5% du budget de l'assurance maladie. C'est simplement soigner des gens qui en ont besoin. On ne laisse pas les gens mourir dans la rue en France, encore heureux. Moi, vous savez, je me souviens que j'ai 3 grands-parents sur 4 qui ne sont pas nés en France. Donc pour moi, notre capacité d'accueil, c'est quelque chose d'important. Après, c'est un sujet sérieux sur lequel il faut qu'on regarde quelle position on va prendre et comment est-ce qu'on va trouver le bon équilibre. C'est souvent une question d'équilibre.
Damien Fleurot.
Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, qui à ce micro, la semaine dernière, disait qu'il faut des quotas d'immigration. Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous seriez prêt à mettre ce sujet sur la table, l'immigration légale ?
Ça a l'air de circuler au gouvernement, ça, non ?
Ça fait partie des questions qui seront mises au débat, de savoir comment on accueille une immigration légale, notamment pour répondre aux besoins de l'économie et puis pour accepter le regroupement familial.
Donc vous n'y êtes
Après,
pas opposé.
Je ne suis pas sûre que le quota soit la bonne solution, mais le débat n'a pas encore eu lieu. Il faut qu'il ait lieu tranquillement.
Vous lancez dès ce matin, vous n'êtes pas d'accord pour...
Non, je dis que sur ce sujet-là, Encore une fois, ce n'est pas une question de posture. C'est facile d'avoir des postures sur ce sujet-là. Pour ce sujet-là, il faut partager l'état des lieux. Il faut partager la réalité. Et après seulement, on pourra regarder quels sont les bons mécanismes. Pour l'instant, c'est trop tôt pour moi pour me prononcer sur des quotas.
Nicolas Barré.
Il y a plusieurs sensibilités au sein de votre majorité. Jean-Yves Le Drian, à ce micro, il y a deux semaines, disait qu'il voulait structurer un pôle d'élus sociaux-démocrates dans la perspective des municipales. Quelque sorte un pôle un peu gauche au sein de la majorité. Est-ce que vous en serez ?
Alors moi, je me reconnais dans cette sensibilité-là. C'est de là dont je viens. C'est vraiment plutôt ma vision du monde. Je discute avec Jean-Yves Le Drian. Je discute aussi avec Didier Guillaume, avec Olivier Dussopt. Après, le système des courants à l'intérieur des partis, ça avait aussi montré ses limites dans les périodes précédentes.
Là, on n'a pas parlé
donc,
de courants.
En sensibilité, oui, je me reconnais dans cette sensibilité.
Et c'était nécessaire de rééquilibrer, d'avoir un pôle plus à gauche, de rééquilibrer par rapport à la ligne du président de la République.
C'est ça si que, on regarde ce qui s'est passé après les Gilets jaunes, on a augmenté la prime d'activité massivement. Prime d'activité d'ailleurs qui est le successeur du RSA Activité que j'ai contribué à créer avec Martin Hirsch. Pour donner plus de pouvoir d'achat aux travailleurs modestes. On a changé de méthode pour travailler plus avec les Français mais aussi avec les organisations syndicales et patronales et aussi avec les élus. Donc, moi, il me semble que l'équilibre est déjà là. Après,
Vargon,
c'est normal que les sensibilités s'expriment et c'est
bien. La politique, ce n'est pas uniquement la méthode de l'acte 2. Quels actes, une fois de plus, là, pour l'immigration, ça va déboucher sur quels actes ? Parce que vous dites l'acte 2, c'est la concertation. Lionel Macron arrive et dit immigration. Avec quels actes ? Quels résultats ?
Si je vous disais déjà ce qu'on a l'intention de faire avant même qu'on commence à débattre, ça serait. On mettra un peu la charrue avant les bœufs.
Non, mais,
pour l'instant, on dit simplement. Il faut regarder l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés. Et là, les principes sont posés. C'est solidarité pour accueillir notre part des réfugiés, humanité, fermeté néanmoins quand on a besoin de faire des reconduites à la frontière. Après, il y a la question plus globale de l'immigration légale. Et ça mérite plus que deux phrases avant un débat. Le débat va avoir lieu. Voilà, les décisions seront prises après.
Alors effectivement, on suivra ce débat. La Macronie découvre maintenant la politique, les municipales, il faut s'ancrer sur le terrain. Les dissidences également fleurissent un peu partout dans la majorité présidentielle. Cédric Villani assure que justement la petite phrase du président lundi soir sur ce qui est mortel en politique, c'est la division, eh bien, ça n'était pas destiné. Il a expliqué lors d'une conférence de presse. On écoute, on regarde.
Le soir même, je recevais un coup de fil d'un conseiller communication de l'Élysée me faisant passer un message du chef de l'État. Premièrement, qu'il était heureux, que le chef de l'État était heureux de m'avoir vu dans cette réunion. Et deuxièmement, que les propos qu'il avait énoncés ne s'adressaient pas à moi.
Bon, alors pas sanctionné par le parti, ça vous convient, ça vous choque ?
On a un candidat, La République En Marche à Paris, c'est Benjamin Griveaux.
Non, mais il y a Cédric Villani, deuxième candidat, qui se réclame de du macronisme.
On a un candidat, Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux, lui-même, n'a pas souhaité demander l'exclusion de Cédric Villani parce qu'il espère, et j'espère avec lui, qu'un rapprochement est possible et qu'il aura lieu. C'est sûr que la division est délétère. C'est sûr que pour gagner à Paris, on a besoin d'être unis, donc cette situation, elle ne va pas pouvoir durer éternellement.
Emmanuel Vargon, vous n'êtes pas une professionnelle de la politique, non. Vous la découvrez, vous êtes à l'action, mais quand vous voyez ce type d'initiative, ça ne vous choque pas, ça ne vous heurte pas, parce que d'autres fleurissent ailleurs, je pense à Lyon, par exemple, où il pourrait y avoir aussi des
dissidences. Ça peut être le changement de la politique aussi, donc au fond, c'est comme d'habitude.
Non, je ne crois pas que ce soit comme d'habitude. On a un process d'investiture assez solide, assez sérieux. Là, on a Cédric Villani qui a décidé de se lancer. Je pense que ça, on ira à un moment vers une réconciliation. Il faut aussi qu'on, voilà, que moi je ne suis pas une professionnelle de la politique. Vous l'avez dit, je viens du service public. La raison pour laquelle je suis là, c'est parce que je pense que c'est le moment d'essayer de transformer le pays et que quand on a la possibilité de le faire, voilà, il faut le faire en servant.
Vous serez peut-être candidate au municipal ?
Je serai peut-être candidate au municipal.
Ah, ça, où ça ?
J'habite dans le Val-de-Marne, à Saint-Mandé. En tout cas, je soutiendrai La République En Marche dans le Val-de-Marne et à Saint-Mandé.
Ça veut dire que vous figurez sur une liste, La République En Marche,
la décision n'est pas encore complètement prise.
Vous
en tout cas,
je m'investirai
dans la politique locale parce que je pense que c'est aussi cohérent de ne pas voir la politique qu'au niveau national, mais d'être aussi investi localement.
Et c'est important justement que tous les ministres, tous les membres du gouvernement soient présents sur des listes, voire même mènent des listes se confrontent au suffrage universel.
Je crois que c'est vraiment un choix très personnel parce que c'est un engagement complémentaire et le gouvernement, c'est un engagement lourd avec des réformes complexes et fortes à mener. Donc je crois vraiment que c'est à chacun de savoir s'il ou elle souhaite le faire et à quel moment. Il n'y a pas que les municipales, il y aura plein d'autres échéances électorales plus tard.
Quand vous regardez Nicolas les projets Barré pour Paris, qui est le plus vert finalement entre Benjamin Griveaux, Cédric Villani et la maire sortante Anne Hidalgo qui mène une politique assez forte en faveur de l'environnement?
Benjamin Griveaux a un projet écologique fort pour Paris. Et d'ailleurs, nous allons tous contribuer à le construire parce qu'on a besoin d'avoir une vision vraiment très verte, très écologique pour Paris. Après, dans ce que fait actuellement la maire de Paris, elle le fait en clivant, elle le fait parfois en provoquant. Je pense qu'il y a d'autres manières de le faire que sa manière à elle.
Alors, vous avez évoqué justement les autres échéances. Le président de la République a évoqué sans embâche 2022 en disant « je serai face encore à Marine Le Pen, c'est elle qu'il faut combattre ». Donc on veut combattre Marine Le Pen, mais on la qualifie d'office pour le second tour. Ça, qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, il faut se rendre compte qu'on a un projet de société qui est porté par La République En Marche, sur lequel on peut avoir des dissensions.
Ce match Le Pen-Macron qui est installé, c'est
pardon
ça que
si
je vous demande.
Que j'essaye de répondre.
Oui,
On peut avoir des dissensions entre d'autres partis démocrates. Mais l'extrême droite et l'extrême gauche sont vraiment des oppositions majeures qui portent un projet de société complètement différent. Donc il ne faut pas se tromper. La confrontation entre projets de société, c'est entre La République En Marche et le Front National, enfin qui s'appelle maintenant le Rassemblement National. C'est un fait. On n'est d'accord sur rien. On ne porte pas du tout la même vision de la société.
C'est fini, les partis de gouvernement, les anciens partis de gouvernement ne pourront pas casser ce match Le Pen-Macron qui est installé par les deux. Hein, ils s'échangent, ils ont un dialogue, un peu comme on voyait à l'époque aussi entre Mitterrand et Le Pen. Ça continue, ils installent le match entre eux. Ça ne vous dérange pas?
Il y a des différences à l'intérieur du projet de société qui est porté par La République En Marche ou Les Républicains ou ce qu'il reste du Parti Socialiste. Mais la différence fondamentale, ontologique, la différence de fond, vraiment de vision, elle n'est pas entre ces différents partis, ni même avec le parti Europe Écologie Les Verts. Elle est vraiment entre ce pôle de gouvernement de responsabilité et des partis qui sont dans la démagogie, dans flatter les peurs, flatter les outrances. C'est ça la vraie différence aujourd'hui.
Merci Emmanuel Vargon. Journée sans voiture, vous revenez comment? Vous partez comment?
Je reprends le périphérique et je vais à Saint-Mandé.
Merci, à très bientôt.
Merci beaucoup Mickaël Darmon, retour de votre grand rendez-vous sur Europe 1 dimanche prochain à 10h. Le grand rendez-vous est d'ici là disponible comme d'habitude sur Europe 1.fr.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.